Au bout de la plume, l'émission littéraire de Radio Alpes-Mancelles. Au bout de la plume, pour partager ensemble le plaisir d'écrire, la passion pour la lecture et faire partager vos talents d'écriture. Au bout de la plume, un rendez-vous hebdomadaire sur votre radio, à Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM.
Aujourd'hui, nous allons parler du livre « L'Atlas des vins insolites ». Pour cela, nous recevons Pierrick Bourgaud, auteur de ce livre, mais aussi journaliste de formation agricole et anthropologique. Alors Pierrick Bourgaud, bonjour.
Bonjour Joséphine.
Dans un premier temps, présentez-vous.
Alors bah écoutez, je suis né en Mayenne, dans un village. Mes parents étaient artisans, menuisiers pour mon père et couturière pour ma mère. Et puis j'ai grandi à la campagne, entre des cafés, le café de mon grand-père, des cousins agriculteurs, au rythme des saisons. Puis je suis allé faire des études de sciences naturelles au Mans, un DEUG à la fac du Mans.
Et vous êtes d'ailleurs devenu après journaliste. Comment ça s'est passé?
Eh bien après le DEUG B de sciences naturelles, ça m'intéressait beaucoup. Et j'ai fait une formation d'ingénieur en agriculture. Et je me suis retrouvé à 23 ans, en sortant de l'école d'ingénieur. La voie habituelle, c'était de devenir conseiller agricole, entre autres, de conseiller donc des gens qui avaient le double de mon âge. Et puis je me suis senti peut-être pas légitime, justement pour leur imposer. C'était l'époque, vous savez, où on proposait aux gens de produire davantage, de couper les haies, davantage de pesticides, davantage d'engrais, davantage de production, de drainer, de faire des choses comme ça. Et je me suis devenu journaliste en fait, parce que je me suis dit que c'était intéressant d'écouter les gens, et j'ai appris beaucoup de choses, et je continue, j'ai 62 ans, je continue toujours à apprendre des personnes que je rencontre. J'étais la semaine dernière en Italie, en reportage, et j'ai appris plein de façons différentes de faire le vin, et c'est un apprentissage perpétuel.
Et d'ailleurs, vous êtes justement journaliste de formation agricole et anthropologique. Qu'est-ce que cela signifie?
Alors, l'agriculture, c'est ma formation d'ingénieur, et l'anthropologie. Alors, j'ai fait une formation d'anthropologie visuelle avec Jean Rouge, Eric Romer, et un DEA à Nanterre-Sorbonne, pour essayer un peu d'étudier l'approche humaine. Vous voyez, c'est pas seulement rencontrer les gens, c'est aussi essayer de comprendre comment les approcher auprès des anthropologues, ethnologues, sociologues qui ont déjà travaillé sur le sujet. Vous voyez, c'est essayer d'en apprendre davantage.
Et vous vous êtes mis aussi à l'écriture, et vous avez écrit notamment plusieurs livres. Comment, dès le départ, vous êtes mis à l'écriture?
Ah, l'écriture, c'est tout petit. Je me rappelle qu'il y avait eu des travaux à Saint-Fambaud-de-Prière, des travaux de voirie, le tout à l'égout. Et bon, je commençais à écrire sur un cahier. J'avais 10 ans à écrire sur un cahier ce qui se passait, à dessiner à la gouache et à peindre les pelleteuses. Ça intéresse beaucoup les enfants, les pelleteuses. Vous savez, les pelleteuses, les travaux, on adore ça. Et donc, essayer de comprendre comment ça se passait. Après, il y avait creusé, il y avait un ancien cimetière, donc il y avait un certain nombre de tombes retrouvées, des os. C'était tout à fait une exploration historique palpitante. Et puis bon, toujours cette espèce d'envie de découvrir comment ça se passe ailleurs, comment à partir des mêmes problématiques qui sont de se nourrir et de boire des boissons saines, comment de par le monde, les agriculteurs, les artisans de bouche, comment on fait, voilà, les familles, les gens qui cultivent leur jardin, comment ça se passe? Voilà, ça m'intéressait de comprendre ça avec effectivement peut-être une approche un peu plus formalisée d'anthropologie et d'ethnologie.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail d'écriture?
Le travail d'écriture, c'est un peu un travail solitaire, vous voyez. Il y a un temps avec les gens, puis on prend des notes, on prend des photos, on récupère des informations, on essaie de comprendre. Et puis après, dans ce temps solitaire, on essaie de comprendre davantage et puis de transmettre aussi, vous voyez. C'est un peu le prof qui prépare son exposé. Donc on essaie de transmettre, non pas l'intégralité, parce que c'est très difficile, mais ce qu'on a compris, et puis avec un angle particulier, qui est par exemple, la semaine dernière, c'était l'angle sur le réchauffement climatique. Vous voyez comment les vignerons de Sardaigne, qui est quand même à 200 km de l'Afrique, c'est proche, 200 km des côtes africaines, et comment ils réussissent à envisager le réchauffement climatique qui est bien réel, quelles sont leurs techniques, leurs interrogations, leurs approches et les solutions qu'ils commencent à mettre en œuvre.
Et y a-t-il un auteur qui vous inspire ?
Il y a beaucoup d'auteurs qui m'ont inspiré. Les auteurs du 19e siècle, que ce soit Flaubert, Zola, Maupassant. La photographie n'existait pas comme elle existe maintenant, quoi. Ça existait, bien sûr, mais c'était très peu diffusé. Donc, il y avait un côté très descriptif, très précis. Et en même temps, quand on décrit quelque chose avec des mots, on essaie de le comprendre. On peut faire une photographie d'une machine qu'on ne comprend pas. Quand on la décrit, on est forcé de la comprendre, vous voyez. Et c'est pareil pour les phénomènes humains. Et puis bon, j'aime bien cette époque aussi, cette époque où les choses étaient peut-être plus proches que maintenant. Et par exemple, je travaille souvent sur la thématique des cafés. Et j'étais tout à l'heure à Sougé-le-Ganelon, chez monsieur et madame Blossier, qui tiennent un charmant petit café en face de l'église. Et madame Blossier me disait qu'il y avait 4 cafés qu'elle a connus tous, mais que chaque café faisait aussi, il y avait un café cordonnier, un café coiffeur, un café épicerie. Donc c'était un univers très vivant, en fait. On pouvait passer la journée, non pas avec des maisons qui sont fermées ou qui sont vides, mais en retrouvant des gens, en rencontrant d'autres, en écoutant des histoires, les actualités locales, ce qu'il y a de nouveau. Et c'est un petit monde, effectivement, que j'ai connu quand j'étais enfant. C'était un peu comme ça dans mon village en Mayenne, et que j'aime évoquer, retrouver parfois quand ça existe.
Et en effet, vous avez écrit plusieurs livres. Quels sont les différents thèmes que vous avez abordés?
Ah oui, j'ai écrit une 50aine de livres, beaucoup sur les cafés, une 15aine, que ce soit des guides, notamment les guides Paris Bar Concert, qui donnent des idées de sortie aux gens sur la nombre considérable de cafés et de restaurants à Paris. Certains ont une caractéristique particulière, ont quelque chose en plus. Vous pouvez non seulement commander une panne de bière ou un mojito ou du vin, mais vous pouvez aussi découvrir des artistes inconnus, débutants ou expérimentés et de talent, mais qui aiment ces petites scènes parce qu'il est assez facile de chanter, de jouer sur ces petites scènes. J'ai rencontré Frédéric Fromet, par exemple, qui fait sa chronique assez régulièrement toutes les semaines sur France Inter. Et là, c'est un artiste qui s'est vraiment entraîné, qui a vraiment apprivoisé le public, qui s'est créé un public de gens qui l'apprécient grâce à ses micro-scènes locales. Il a testé des chansons, puis c'est quelqu'un d'extrêmement fertile. Bon, d'autres, la Grande Sophie a commencé aussi dans les cafés. Et beaucoup, beaucoup d'autres artistes ont commencé à apprendre leur métier parce qu'il existe bien sûr des émissions comme The Voice et autres où des gens sont sélectionnés. Et après, il y a quelqu'un qui est issu de la sélection qui remporte le gros lot. Mais tous les autres qui ne sont pas sélectionnés et ceux qui ne sont pas le vainqueur final ne sont pas mauvais, mais c'est un autre style. Voilà, ça n'a pas plu au jury, mais c'est parfois un peu frustrant pour eux, certainement, voire ça peut couper des vocations. Tandis qu'au café, il y a des gens qui vont s'intéresser à ce que vous faites, qui vont aimer, et d'autres pas du tout. Et c'est très bien, ils sont libres d'apprécier ou pas. Et ceux qui n'aiment pas du tout ce que vous faites, ils vont à l'autre bout du bar. Et puis ceux qui aiment, se rapprochent de vous. Et comme ça, voilà, on voit en direct ce que vous aimez. C'est un très bel apprentissage. Il y a encore des cafés qui le font. Donc, les livres que j'ai faits, ce sont des guides en particulier pour conseiller au public de découvrir certains lieux. Et bon, j'ai fait un roman aussi. Mon dernier roman, c'était Journal d'un café de campagne. Ça raconte un couple qui reprend un café de campagne. On en avait parlé, vous m'aviez accueilli et je vous en remercie à ce sujet. Et puis aussi Au bonheur des bistrots, qui est un livre photographique avec pratiquement que des images, pas de mots, qui montrent en photo ces petits lieux, tous différents, tous très artisanaux. Vous voyez, c'est le lieu de quelqu'un, c'est pas une chaîne comme par exemple Starbucks ou autre, ou McDonald's, qui sont un peu une duplication, et puis des employés qui sont un peu interchangeables. Vous voyez, on va chez quelqu'un quand on va au café, et on va chez quelqu'un sans être invité, on pousse la porte, et c'est vraiment ça que j'ai envie de raconter dans mes livres, que ce soit les romans ou les livres plus documentaires.
Ou donc une thématique qui vous touche particulièrement la thématique du café.
Oui, parce que c'est un lieu de tous les possibles. On a parlé de musique, on a parlé de rencontres entre gens qui se connaissent, entre gens qui se connaissent pas. C'est un lieu aussi riche que la rue, parce que la rue, effectivement, il se passe plein de choses, mais c'est aussi un lieu qui est protégé, parce qu'on est chez quelqu'un, le patron, la patronne du bistrot veille à ce que la personne n'ait pas trop bu. Voilà, c'est sous sa responsabilité. Donc c'est un lieu protégé, c'est un lieu d'histoire, un lieu où les gens racontent des choses, un lieu de parole. C'est un petit théâtre, hein. Souvent j'ai l'impression qu'un café qui ferme, c'est un théâtre qui brûle. Voilà, un petit théâtre où on peut être aussi bien spectateur qu'acteur. Où, voilà, vous avez envie de parler, vous parlez. Vous avez envie d'écouter, vous écoutez. C'est un lieu. C'est un phare de la nuit. Je suis venu de la Mayenne en voiture tout à l'heure. Voilà, il faisait nuit encore. Et les cafés qui étaient ouverts, c'est vraiment un lieu où on peut s'arrêter. Il y a des distributeurs de pain, il y a des distributeurs de pizza, mais bon, c'est un peu triste. On n'y rencontre personne. Au café, on peut parler avec quelqu'un.
Et sinon, vous avez sorti un autre livre, l'Atlas des vins insolites. Déjà, pourquoi parler des différents vins?
Alors, le vin est une boisson très particulière qui tire ses origines de l'Antiquité. A priori, dès l'époque, on a su fabriquer des poteries. Bon, on savait creuser des pierres aussi, mais la poterie, c'est quand même beaucoup plus pratique pour la fermentation. Le vin, ça raconte beaucoup d'histoires humaines. Ça raconte la nécessité de conserver des nourritures et des boissons. Ça raconte des groupes humains autour d'une boisson qui partagent cette fête, cette nourriture et ces boissons. Les Grecs racontent ce qu'ils appelaient des sacrifices. Des sacrifices, c'était, par exemple, quelqu'un offre dans un temple, offre un mouton, une bête plus grosse, un bœuf par exemple, et ce sont les pèlerins qui se régalent, et c'est accompagné de vin. Alors le vin, j'ai vu à Agrigento et en Sicile, c'était assez simple, vous aviez la vigne à côté du temple, une première terrasse qui s'appelait le palmento, sur laquelle on mettait le raisin, puis bon, les gens marchaient, voilà, avec les pieds écrasés le raisin, et puis un petit filet de jus de raisin qui coule dans une cave, et dans la cave il y avait une autre pierre, et ça fermentait tout simplement. Donc c'était un vin forcément rosé, même si les cépages étaient rouges, et un vin jeune, donc les pèlerinages aux différents dieux et déesses, jeunesse, bah, était accompagné de banquets, en fait, où les gens mangeaient, un pain barbecue, vous voyez, ce qu'on fait quand on reçoit des amis et qu'on fait un barbecue n'est pas très différent. Donc, ils mangeaient l'animal et ils buvaient le vin, qui était quand même une boisson très étonnante, puisque c'était une boisson fermentée, qui provoque des effets, qui dure dans le temps, qui se conserve, une boisson qui peut même s'enflammer quand on le chauffe un peu avec un degré alcoolique important. Et alors, vous me direz, le sacrifice aux dieux, qu'est-ce qu'on donne aux dieux, alors, finalement? Eh bien, une historienne m'a répondu que c'était probablement la fumée du barbecue, on va appeler ça comme ça, qui s'élevant vers le ciel était l'offrande que les gens faisaient aux dieux. Voilà. Bon, en fait, c'était une grosse fête, un barbecue, et on boit du vin, et ça rassemble les gens, c'est très fédérateur, vous voyez. C'est un petit peu lié à l'aspect festif. Mais cette préoccupation de conserver les nourritures et les boissons durant la mauvaise saison, parce qu'on a des différents fruits, on a différents légumes. Bon, il y a des légumes secs qui se conservent. À l'époque de l'Antiquité, il y avait évidemment pas de tomates, pas de poivrons, pas de maïs. C'est après la découverte de l'Amérique qu'on a commencé à les consommer. C'était des fèves, il y avait du blé, il y avait des poissons, il y avait des anchois marinés, toujours dans le sel. Le sel, c'était très important. Pour conserver le sel, la fumée. Les Gaulois ont commencé à fumer les choses. Les Gaulois, comme on a beaucoup de bois dans notre Gaule, on a commencé à faire des tonneaux, pratique pour le transport du vin. Et il y avait toujours ce miracle de la transformation d'une nourriture, de quelque chose de périssable, qui était le raisin. Vous voyez, le raisin, ça ne dure pas, ça pourrit. Et le miracle de la transformation en une boisson qui est claire, qui est limpide, qui se filtre toute seule, il y a un dépôt, et qui provoque des effets. Déjà, les Grecs étaient très, très attentifs en disant le premier verre vous donne. Alors d'abord, ils le diluaient. Hein. Le vin, c'était. On le diluait dans de l'eau, dans un cratère, ça s'appelait un cratère. Et il disait le premier verre, ça provoque le bien-être, l'euphorie. Le deuxième verre vous rend volubile. Le troisième verre vous donne des mouvements un peu plus vifs que d'habitude. Et puis jusqu'au dixième verre. Et le dixième verre, c'était au dixième verre, vous renversez la table, vous détruisez la maison, vous devenez un assassin. Enfin, c'était très très attentif à ça. Et les Gaulois passaient pour des barbares puisqu'ils buvaient le vin pur. Sans le diluer. Et puis, il faut savoir aussi que, après plus de 2 millénaires de consommation d'alcool, nos enzymes digestives, l'équipement digestif est habitué à consommer de l'alcool, la dégradation de cette molécule. Il y a des gens qui n'ont pas cette enzyme dans le foie, notamment des Asiatiques, qui, très vite, ressentent les effets de l'alcool, avec un demi-dé à coudre de bière, déjà, et ça prend beaucoup de temps à être éliminé. Mais on connaît bien les effets de l'alcool. C'est une drogue douce qui est bien maîtrisée après 3 millénaires de consommation. En revanche, pour les nouveaux consommateurs qui découvraient le vin, c'était quand même une boisson assez étonnante, quoi. Et le vin, par exemple, dans l'évangile, l'histoire du Christ est très liée au vin. Son premier miracle, c'est transformer l'eau en vin dans une noce où il n'y avait pas assez de vin et les mariés étaient très embêtés de ne pas avoir acheté assez de vin. Et puis son dernier miracle, c'était la scène, vous savez, ceci est mon sang, prenez-y, buvez. Alors, l'essor de la religion chrétienne a accompagner l'essor de la vigne, parce que c'est quand même, pour célébrer la messe, il fallait du vin, il fallait donc de la vigne, même sous des latitudes un petit peu difficiles, des régions où la vigne ne poussait pas, il y avait, les moines faisaient tout pour cultiver la vigne. Donc ça raconte ce voyage humain, quoi.
On comprend pourquoi, d'ailleurs, vous avez écrit sur le vin. Pourquoi on parle d'Atlas ?
Alors, c'est vrai que l'Atlas est basé beaucoup sur la France, l'Italie, un petit peu l'Asie. Mais l'Atlas, parce qu'il y a des cartes géographiques pour situer. On est dans un univers où il y a de moins en moins de cartes. Vous voyez, on prend le GPS pour venir ici, on prend pas la carte. Et alors, Thomas Jonglaise, l'éditeur, a voulu remettre à l'honneur les cartes pour situer. Voilà, c'est important le côté géographique. Donc, situer dans un contexte. Et donc, cet Atlas, c'est une suite d'une cinquantaine de curiosités. Alors, qu'est-ce qu'un vin insolite? Vous allez me demander. Un vin insolite, c'est un vin qui pousse, c'est d'abord une vigne, qui pousse sous des latitudes un peu improbables, par exemple à Taïwan, en zone subtropicale, des vins qui poussent dans des climats extrêmement arides, par exemple l'île de Pantelleria, qui est à 40 km de la Tunisie, c'est une île italienne, et Pantelleria, il ne pleut pas, il n'y a pas d'eau. Alors, la vigne pousse dans des sortes de petits cratères où se condense l'humidité de la nuit et elle boit par les feuilles. Ça fait des raisins très concentrés. Ils en font un vin, Moscato di Pantelleria, un vin, le Passito, un vin qui refermente avec des raisins secs. J'étais chez Carole Bouquet, qui est célèbre pour son vignoble. Et c'est un vin extrêmement doux et parfumé, parce que c'est vraiment des arômes très très concentrés. Et dans ces conditions extrêmes, à Lanzarote aussi, qui est une île volcanique, les vignerons réussissent à produire quelques grappes de raisins et du vin.
Oui, donc dans cet atlas, plusieurs exemples de vins insolites.
Oui, alors même en France, on a des vins insolites. Vous savez, la France a longtemps fait figure d'exception, puisque le pays du vin, c'est la Méditerranée, les pays du vin, l'Italie bien sûr, l'Espagne, l'Empire romain. Et la France, c'était quand même des climats très frais. Vous savez que le champagne, bien que très diffusé, est un vin très insolite, puisque c'est un vin blanc, le plus souvent, il y a 12% de champagne rosé, mais qui est fait avec en majoritairement à 70% du pinot noir, donc un cépage rouge. Alors ça peut vous sembler curieux, mais le pressurage est fait immédiatement. Donc le jus est blanc, alors c'est fermenté, c'est un vin d'appellation d'origine, mais qui ne respecte pas, c'est une dérogation, sauf les cuvées millésimées, normalement il y a l'année qui est écrite sur la bouteille de champagne, mais eux, ils font un système d'assemblage de différentes années, sauf les cuvées millésimées, qui sont des cuvées vraiment consacrées à une année, afin d'obtenir un équilibre, un peu comme un parfumeur assemble différents parfums. Et le champagne, alors le champagne rosé est assez étonnant, puisque le rosé, vous savez comment on fait le rosé, on prend des raisins rouges, après la vendange, si c'est une vendange à la machine, bon, c'est un peu broyé, donc le jus coule et ça commence à fermenter. Si c'est une vendange à la main, bon, bah, quand on érafle, les grains de raisin sont un petit peu cassés, donc si on veut faire un vin blanc, il faut très vite presser. Bon, là, on laisse une nuit, le temps que les pigments de la peau du raisin imprègnent l'eau du raisin. Il n'y a pas encore d'alcool, ça n'a pas encore fermenté. Et donc, on presse le lendemain et on a un vin rosé. Donc, plus ou moins rosé. C'est pas toujours facile de maîtriser la teinte du rosé. Vous savez, le vin, c'est simple parce que c'est juste du raisin. Voilà. Et donc, pour obtenir un vin rouge, eh bien, on va laisser la peau en contact avec l'eau du raisin et puis qui devient assez vite l'alcool parce qu'il y a du sucre et avec les levures, ça devient de l'alcool. Et on presse après. En fait, c'est simple. Pour faire du vin blanc, on presse d'abord, on fait fermenter ensuite. Et pour faire du vin rouge, eh bien, on laisse fermenter d'abord. Et on presse ensuite. Alors, il existe du vin orange, qui est assez amusant. C'est pas du vin à base d'orange. Ça existe aussi le vin d'orange, mais c'est autre chose. Le vin de la ville d'Orange, c'est encore autre chose. Mais le vin orange, c'est un vin blanc qui est fait comme un vin rouge. C'est-à-dire que vous prenez un cépage blanc, et puis vous éraflez pour éviter, parce que la rafle, c'est-à-dire la tige qui soutient les grains de raisin, elle est quand même astringente, assez dure. Ça donnerait un goût trop vert, trop difficile au vin. Il reste les pépins et la peau. Donc tout ça, ça fermente un certain temps. 3 semaines, 1 mois. Donc, ça fait une couleur un petit peu ambrée, un petit peu jaune, un petit peu orange, parce que la peau du raisin reste en contact jusqu'au pressage et elle reste en contact durant toute la fermentation. Donc, on a l'eau du raisin et puis aussi l'alcool qui se développe, qui dissout des composés des pépins et puis de la peau. Alors, le vin orange est un vin assez souvent sec. Voilà, il n'y a pas de sucre résiduel, mais qui a des arômes très particuliers. Vous voyez, le vin orange, ben le rosé, effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Il y a du rosé plus ou moins clair, plus ou moins rosé. Alors, c'est amusant parce que à partir du même fruit, qu'est le raisin, on a une énorme diversité de vins. On parle du vin noir en Cahors, on parle du vino verde, le vin vert au Portugal. Il y a vraiment toutes les couleurs. Hein. Le vin gris aussi, ça existe, qui est une sorte de rosé très très pâle. Et tout ça, bon, ça peut être de grandes entreprises qui le font, comme les vignes que j'ai visitées en Chine, mais c'est un travail artisanal. La semaine dernière, j'étais avec des vignerons qui ont 1 hectare. Et c'est un petit peu aussi leur personnalité, leur projet personnel. Ce sont des paysans, vous voyez, dans mon livre « Nos racines paysannes », je mets vraiment en évidence ce que l'agriculteur fait en toute liberté, en toute créativité. Et avec ce livre sur les vins insolites, eh bien, le vin insolite, c'est vrai que c'est souvent l'œuvre d'artisans, de gens qui prennent des risques. C'est pas une grosse entreprise qui va faire un vin insolite. Une grosse entreprise qui vend à la grande distribution fait des produits plutôt normés, plutôt des produits faciles à vendre, auxquels on s'attend, dans une appellation d'origine qui a le goût de l'appellation d'origine. Vous achetez un Bordeaux qui a un goût de Bordeaux, ben voilà, c'est ce que vous souhaitez. Si c'est avec des cépages bizarres, quoi qu'autorisé dans l'appellation. Donc, c'est plus des petites séries. Et c'est ça qui est intéressant justement, c'est toutes les variantes qu'on peut trouver grâce à cet artisanat des vignerons et des vigneronnes.
Et justement, ce livre, comment vous l'avez écrit ?
Alors, je l'ai écrit en reprenant toutes mes notes depuis 30 ans, mes notes et mes photos sur des vignobles étranges, que ce soit le vignoble qui a été replanté à Pompéi sur la trace d'anciens vignobles. Donc, on a essayé de comprendre comment fonctionnaient, comment travaillaient les vignerons romains à Pompéi. Et puis, comme c'est magnifique de voir que tout ce qui a été préservé et leur méthode, on n'a pas trouvé de vin, bien sûr, parce que le vin s'est évaporé des amphores depuis longtemps. Mais on a vu comment l'espacement, la pergola, qui est une sorte de petite tonnelle de feuilles, qui servait à protéger les gens et les animaux de la chaleur, vous voyez, donc ils travaillaient à l'ombre. C'était très intéressant. Il y a un vin Villa dei Misteri qui a été fait par Mastro Berardino. Apparemment, les vignes ont été déplantées pour peut-être préserver le site archéologique, mais pendant une dizaine d'années, il y a eu cette vinification qui était plutôt moderne, parce que le vin romain, qui était parfois salé, qui était avec des épices pour le conserver, aurait pu être quand même assez bizarre pour nos palais du 21e siècle.
Combien de temps, justement, vous avez passé sur l'écriture de celui-ci ?
Alors, c'est difficile de préciser. Il y a eu une première édition Vin Insolite en 2015, entièrement revue et corrigée avec de nombreux lieux. Et ce sont des histoires, en fait, ajoutées. Comment un vigneron, par exemple, de la vallée de la Loire, a compris que le pied de vigne avait besoin de fraîcheur et les raisins avaient besoin de chaleur. Alors, c'est un peu incompatible. Donc, alors, son idée, c'était, c'est un clos, quoi. Son idée, c'était de faire un mur et puis avec des trous. Donc, du côté nord, il y avait le pied de vigne et du côté sud, il y avait la tête de la vigne avec les raisins. Vous voyez, il y a des tas de tentatives comme ça. Ce vin existe toujours, il a été repris, cette vigne. Des tas de tentatives très étonnantes, très belles. J'ai travaillé en Irak aussi, et le vin est interdit et la vigne a été pu s'exterminer par Saddam Hussein d'ailleurs, enfin, au Kurdistan. Et donc les chrétiens qui veulent célébrer la messe font du vin secrètement dans les salles de bain avec des bassines. Le pressage, ça se fait avec des bottes en caoutchouc, vous voyez, pour écraser, c'est ce que je montre dans le bouquin, pour écraser le vin. Ça fermente dans des bonbonnes. Voilà, on faisait du cidre ici, hein. C'est pas très compliqué. Ça demande une certaine attention, une certaine propreté, mais c'est quelque chose qu'il est possible de faire, vous voyez, avec justement des caractéristiques olfactives de goût très différentes et très évolutives. Vous voyez, si vous venez juste après la fermentation ou 6 mois plus tard, on n'a pas le même goût. Donc c'est intéressant pour ça.
Et c'est un livre illustré.
Oui, alors texte et photos. L'Atlas des vins insolites aux éditions Thomas Jonglès, c'est texte et photos. Au bonheur des bistrots, c'est uniquement du texte. Le roman journal d'un café de campagne, c'est bien sûr. Aux éditions Ouest France, c'est bien sûr. Voilà, un roman, du texte. Et puis l'écho des bistrots, qui est mon dernier livre qui va paraître, qui est un peu déjà disponible en librairie, mais qui va surtout être lancé en janvier. C'est du texte, c'est des témoignages à travers le monde.
Et concrètement, pourquoi justement acheter ce livre, l'Atlas des vins insolites ?
Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est pas seulement une collection de moutons à 5 pattes et de curiosités improbables qu'on ne trouve nulle part. Ça raconte comment on fait le vin. Alors, en racontant ce qui est anormal, ce qui est exceptionnel, ce qui est rare, eh bien, je raconte quelle est la façon classique, habituelle de faire du vin. Voilà, je parlais du champagne et du rosé. Bah, le champagne est un vin insolite parce que, bien qu'on en produise 300 millions de bouteilles par an, hein, c'est pas, et qu'il soit connu dans le monde entier, parce que le rosé, par exemple, on le fait en mélangeant du blanc et du rouge. On fait aussi du rosé, comme je vous disais tout à l'heure, en laissant imprégner une nuit, le vin d'une nuit. Alors, c'est pas très bien quelle sera la couleur du rosé, s'il sera très clair ou un peu moins clair. Le champagne rouge n'existe pas, c'est interdit par l'appellation. Mais ça existait à une époque, au XXe siècle, au début du XXe siècle. Mais vous voyez, donc c'est le seul vin rosé que l'on fasse en mélangeant du rouge et du blanc. Parce que ça refermente après, il y a la deuxième fermentation en bouteille qui se produit. Vous voyez, c'est un champagne qui coche un peu toutes les cases de l'insolite, puisque son appellation autorise des méthodes qui sont différentes de celles qu'on utilise habituellement pour le rosé. Parce que le rosé n'est pas un mélange de vin blanc et de vin rouge, parce que sinon le vin rouge colore très vite et le vin rosé aurait le goût du vin blanc. Puis c'était juste une coloration. Donc c'est vraiment une façon différente de faire le vin. Alors donc dans ce livre, je raconte, c'est un peu une initiation à l'œnologie, je raconte comment on fait du vin hors piste, mais comment aussi on le fait dans les conditions normales, dans les conditions habituelles des vigneronnes et des vignerons avec qui j'ai travaillé.
Où peut-on l'acheter justement ce livre ?
Alors, il est en vente en librairie, Atlas des vins insolites. Soit il est disponible dans votre librairie, soit vous pouvez le commander aux éditions Thomas Jonglès. Alors, il est disponible en ligne aussi, bien sûr, mais je trouve que c'est mieux parce que vous connaissez le principe du prix unique du livre, il est au même prix partout. Donc la grande distribution ou la librairie de quartier le vendra rigoureusement au même prix. Et ça c'est intéressant pour conserver les librairies qui sont des médiateurs, des médiatrices très importants pour les auteurs connus, puis les auteurs pas connus et tous les talents. Et c'est important que les librairies survivent. Ça fonctionne bien. Depuis le Covid, il y a eu un regain d'intérêt, mais rien n'est jamais gagné. Donc continuez à soutenir les librairies.
Est-ce que vous avez des contacts à nous communiquer pour ceux qui souhaitent plus de renseignements sur vous, votre travail et vos livres ?
Alors j'ai un site qui s'appelle monbar.net, monbar.net, qui est un site où je mets mes actus, les dédicaces, les nouveautés, puis bon, un lien, non pas pour acheter le livre, mais pour aller vers des librairies qui vendent le livre.
Quels sont vos projets ?
Ah, mes projets. Je continue à écrire, bien sûr. Je continue à écrire, à raconter des petits lieux. Je vais beaucoup dans les cafés parce que c'est bon de découvrir ces petits mondes. C'est bien d'en parler, mais c'est bien d'y aller aussi. C'est concrètement, c'est une façon de les faire vivre. Et vous voyez, le café, c'est le seul endroit dans un village où on peut entrer sans être invité. Vous voyez, vous ne frappez même pas la porte, vous poussez la porte, vous entrez, vous allez vous asseyez, vous avez le droit. Parce que, effectivement, vous consommez, vous prenez une boisson. Et c'est une façon d'écouter aussi les histoires des gens qui les tiennent, une histoire très locale. De voir un décor très personnalisé avec des photos des gens, avec des photos, des cartes postales, des personnes qui ont vécu là. Je repense à la Mère Lapipe, qui était un café extraordinaire au Mans, qui nous relie tous. Elle est partie, c'était en septembre 2022, mais on se retrouve encore dans d'autres cafés. Et puis c'est drôle, quoi. On y passe beaucoup de temps à rire, à croiser des personnes improbables qu'on n'imaginerait pas au café. C'est un lieu transversal, vous voyez, c'est un lieu où on croise des personnes qu'on ne verrait pas normalement.
Donc beaucoup de choses à dire encore, hein, bien sûr, sur les cafés.
Ben, je voudrais bien, oui.
Un mot à rajouter ?
Eh bien, allez au café, découvrez les vins, découvrez... Il y a un café à Paris, enfin à côté de Paris, qui est le Melting Pot. Il y a à Laval, il y avait un café qui s'appelait le Melting Pot aussi, mais qui a fermé malheureusement. Et donc Monsieur Bio, qui organise des concerts tous les vendredis et les samedis, avec des voisins, et notamment, vous connaissez les Rita Mitsuko. Alors Fred Chinchin est décédé, son fils joue de la guitare, et assez régulièrement joue, il est extrêmement doué, joue dans ce petit bistrot de quartier, et puis sa mère vient, sa mère, bah voilà, vous la connaissez, la chanteuse Rita Mitsuko, vient avec son chien, et l'autre l'autre jour, j'étais là, on était entassés au comptoir, et puis bon, bah, le chien est quand même très petit, et malheureusement, j'ai marché sur le chien. Donc, mais elle m'a pas voulu, donc en fait, des rencontres assez curieuses. Puis le fils est quand même extrêmement doué en guitare, quoi. C'est un grand, grand guitariste.
Alors Pierrick Bourgaud, je vous remercie et je vous souhaite encore beaucoup de beaux projets et notamment sur ces cafés. Et je vous dis à bientôt.
Merci Joséphine, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Mon bistrot préféré, quelque part dans les cieux, m'accueille quelquefois au jardin du bon Dieu. C'est un bistrot tranquille où il m'arrive de boire en compagnie de ceux qui peuplent ma mémoire. Les jours de vagalame ou les soirs de déprime, près de quelques artistes amoureux de la rime. Je vide de trois verres en parlant de peinture, d'amour, de chansonnettes et de littérature. Il y a là, bien sûr, des poètes, le prince tirant sur sa bouffarde, l'ami Georges Brassens. Il y a Brel aussi et Léo l'anarchiste. Je revis avec eux une célèbre affiche. Traîner vient nous chanter une folle complainte, cependant que Verlaine et Rimbaud à l'absinthe se ruinent doucement en évoquant Villon qui rôde près du bar. Mauvais garçon, l'ami René Fallet me parle de ses touches qui le font frissonner quand il pêche à la mouche. Du vin et des femmes, et surtout des copains qui font la vie plus belle que des espoirs plus loin. Il y a Boris Vian, mon passant et bruant, écoutant les histoires d'un Coluche hilarant. Je m'assois avec eux quelques libations, entourés de des proches, les Reiser et les tontons. Nous rigolons des cons avec Frédéric Dard, souvenir de prison avec le vieux Boudard. Audiard et puis Pagnol s'allument au Pernod. Je lève mon verre à Robert Doisneau, Gainsbourg et du piano jouant sa javanaise. Et nous chante l'amour qu'il appelle la baise. De verre est là aussi, dans un coin il trinque, avec Bernard Dimet, avec Bobby la pointe. Assis autour du poêle, il y a Jacques Rigaud, Franquin Jean-Pierre Chabrol, Prévert et son égo. Nous parlons de suicide, Maurice René arrive. La mort est quelquefois tout un art de vivre. Mon bistrot préféré, quelque part dans les cieux, je l'avoue désolé, manque de femme un peu. Mais les amis, les potes qui le hantent toujours savent aussi bien qu'elle ce que c'est que l'amour. Ils sont bien plus vivants dans ma mémoire au moins que la majorité de mes contemporains. Si demain la faucheuse vient me prendre la main, vu qu'elle me conduise au bistrot des copains.